n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne.
Déjà ?
Oui, quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
It's time to start. My time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, l'émission qui, tous les 15 jours, vous parle de cinéma sur Radio G. Avec moi dans le studio, ce sont nos archives. En effet, ce soir, on vous propose une émission en forme de sélection. Vous entendrez ou réentendrez un souvenir de spectatrice récolté par Claire ou quand le cinéma accompagne les grands moments de notre vie. Il y aura Matt, son humour et son regard sur Avatar et les cinémas de Mayenne. Et pour commencer, un entretien. Nous avions rencontré Louis Garrel à l'occasion de la sortie de son dernier film, L'Innocent. Depuis, vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce film en salle ou d'apprendre qu'il avait obtenu le César du meilleur scénario et que Noémie Merlant a été récompensée quant à elle pour le meilleur second rôle, toujours au César. César ou non, c'est l'occasion pour nous de vous proposer à nouveau d'entendre cette conversation avec Louis Garrel.
Bonjour Louis Garrel, vous réalisez L'Innocent, votre quatrième long métrage dans lequel vous tenez aussi un des rôles principaux. Alors votre film commence par une scène très forte avec un premier plan intense tout en regard dont la signification est démentie dès le plan suivant. Dès cette séquence d'ouverture, vous nous amenez sur une fausse piste, c'est-à-dire que ce n'est pas le début d'un braquage, mais bien un atelier de théâtre en détention. Comment est née pour vous l'idée de ce vrai-faux film noir ?
Vrai-faux film noir, non, je pense que c'est un vrai film noir qui joue avec le faux, plutôt. Donc c'était l'idée que quelqu'un est en prison et prend des cours d'acteur, et donc c'est ces cours d'acteur qu'il va utiliser pour ensuite mettre au point son braquage. C'est assez rapidement, je voulais ouvrir le film comme ça sur une fausse piste, j'aimais bien ça. Le film commençait comme on donnait la tonalité du polar et en même temps on en jouait. Donc c'est à peu près le principe du film, quoi. C'est un film comique et noir, les deux en même temps. Et donc j'espérais beaucoup que les spectateurs puissent jouer avec le film, qu'ils soient à la fois vraiment avec des règles du jeu dans la main, qu'ils soient surpris, qu'ils soient, je sais pas, pris en haleine, émus par les personnages, affectueux par les personnages, mais qu'ils puissent se dire, tiens, on va jouer, quoi. Tout le film va jouer tout le temps avec nos attentes, on va être trompé, puis ensuite on va avoir les règles du jeu avant les personnages, on va pouvoir rire des personnages mais sans se moquer, mais enfin voilà, que le film soit très joueur. L'ambition première quand on fait un film, c'est de que les spectateurs puissent pas prévoir ce qui va se passer. Ça, c'est, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Carrière et lui, je voyais bien qu'à la toute fin de sa vie, puisque je l'ai connu les 10 dernières années de sa vie, il me disait, moi ce que je veux, c'est que les spectateurs ne sachent pas ce qui va se passer à la scène suivante. Il y a que ça qui m'intéresse, la psychologie, je m'en fous, je veux que les gens ils ne sachent pas ce qui va se passer, parce qu'en fait c'est ça qui les tient en haleine. Et j'ai besoin de capter l'intérêt du spectateur. Il y a deux catégories de metteurs en scène, ça c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs c'est Chabrol, je trouvais que c'était très bien dit. Il y a les poètes et les narrateurs, je suis pas du tout un poète, je suis un narrateur, et un narrateur c'est comme quand on raconte une histoire à son enfant avant de s'endormir, il faut qu'on capte son attention. Donc la plupart du temps, il faut être surprenant, je sais pas, drôle, amusant, imagé, voilà. Donc c'est le même processus quand on fait un film, quoi. On essaie d'être le plus intéressant possible. Mais c'est aussi même le titre L'Innocent, ça pourrait être d'abord le personnage de Roche Dizem, puis ensuite, en apprenant plus de choses sur le passé de mon personnage, ça pourrait être aussi lui, puisqu'il est en deuil de quelque chose dont il pourrait être éventuellement coupable. Enfin bon, il y avait ce jeu-là, avec même avec le titre, quoi.
Alors du coup, vous parliez de Jean-Claude Carrière, avec qui vous aviez coécrit vos deux précédents films. Là, vous avez travaillé avec Tanguy Viel, qui est plutôt un romancier, qui publie aux éditions de Minuit. Et puis avec Naïla Guiguet, est-ce que vous pourriez nous dire, revenir un peu sur ce qu'ils ont apporté de leurs univers respectifs dans l'écriture du scénario ?
J'aime beaucoup, c'est vrai que souvent quand je regarde les génériques, par exemple, des films italiens, Il y a des fois 5-6 scénaristes. Et je comprends très bien ça, l'idée de partager une idée, d'avoir une première idée, qui ensuite est entendue par un deuxième scénariste, qui lui-même l'interprète d'une manière différente, avec un troisième qui pourrait faire l'arbitre entre les deux. Et ça, je trouve que ça fait un espèce de jeu de tennis qui est très bon. Mais même moi, je pourrais me dire, à 4, 5, 6, on doit aussi très très bien travailler. Donc j'avais très envie de travailler avec un romancier. Tanguy a écrit beaucoup de romans et qui joue avec le cinéma, le film noir, et aussi lui-même a écrit des polars qui ne sont pas du tout sur le cinéma, tout en restant très... je dis qu'il écrit des romans, des polars existentiels, parce que je sais pas, ça le définit bien quand j'y pense. Et en fait, il n'avait jamais écrit de scénario. Je savais qu'il connaissait mes films, on s'est rencontrés. Il m'a dit tout de suite, tu sais, moi j'ai jamais écrit de scénario. Et je lui dis, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux, parce que j'avais quand même dans l'idée de faire un film pour des acteurs et pour des performances d'acteurs, j'ai besoin aussi de dialogue. Et j'aime beaucoup tes dialogues. J'aime bien ta manière pas naturaliste d'écrire les dialogues, et j'aime beaucoup que ce soit un romancier comme toi qui les écrive. Donc on a travaillé tout bêtement comme, je sais pas, à la table, vraiment avec des brouillons d'histoire, des synopsis. On a travaillé plusieurs fois le synopsis, et puis après on s'est distribué les séquences. Mais j'aimais bien l'idée que, vous savez, la difficulté quand on fait un polar aussi, c'est que tout de suite nous viennent des images de films américains. Et ça, c'est très difficile parce que il faut pas avoir l'air de rivaliser avec le cinéma américain, parce que sinon on fait des espèces de, je sais pas, des répliques. Donc tout le temps, il fallait qu'on soit à la fois le cinéma américain a fait plus en masse de films noirs et de polars que nous. On en a eu quand même, notamment par Jean-Pierre Melville, qui a réussi à franciser, on pourrait dire, ou je sais pas comment on pourrait dire, le roman américain. Mais il les a vraiment fait, c'est vraiment des romans noirs français. Donc le jeu, c'était tout le temps et de s'inspirer de choses qu'on aimait, tout en se disant, ouais, mais on va le faire en France. Et notamment, on va faire le film à Lyon. Donc c'était des questions de cinéma, des questions d'écriture chez lui, que j'aimais beaucoup aussi son écriture, sa passion pour le film noir, tout en sachant que c'était aussi une citation qu'on faisait du film noir, et que le film, il devait rester très, très, très proche des personnages, quoi, ou je sais pas, ou que c'était pas un film, le genre devait pas prendre le pas, qu'il devait y avoir vraiment un film de caractère, de personnages très forts, mais qui baignait dans un film qui tendait vers une action tout le temps, pour pas que ça soit, voilà, pour que ce soit le plus haletant possible, quoi.
Pour revenir au personnage, justement, un mot sur ce couple, Roche Dizem, Anne Guimberg, il était là, il fallait absolument que ça matche, Comment vous avez ressenti ça tout de suite, cette espèce d'alchimie comme ça?
Moi, c'est vrai que comme spectateur, quand je vois des films, je me souviens d'acteurs que j'adore et tout ça, mais beaucoup quand même de couples. Je savais que le personnage de Michel, joué par Rochdy, et le personnage de Sylvie, qui finalement était joué par Anouk Grimbert, il fallait que les deux acteurs, qu'on ait une émotion en les regardant. Donc ça soit. Et c'est vrai que j'ai demandé à Anouk et à Rochdy de se prêter au jeu, s'ils voulaient bien faire quelques petites scènes devant moi. Et j'ai fait la scène du mariage qui ouvre le film entre deux, et tout de suite j'ai eu peur pour elle, j'étais ému pour lui, j'avais peur pour lui qu'il se fasse quitter par elle. Enfin bref, et tout de suite ça marchait, et ça racontait déjà une histoire sans vraiment dérouler des dialogues, quoi. C'était narratif, leur couple était un couple de cinéma. Il y avait un truc iconique entre eux. Lui, il est très très grand, Anouk, elle est beaucoup plus petite. Enfin, je sais pas, ça fonctionnait, quoi. Ça, ça s'explique pas. Mais c'est vrai que je souvent dans les films, quand tout d'un coup je vois que les acteurs fonctionnent pas ensemble, ils peuvent être très très bons indépendamment, mais leur couple est pas un couple de, ça fait pas couple de qui fait du roman, quoi. Ça fait, on reste dans le making of, on voit l'acteur et l'actrice qui sont là, qui se disent bonjour au maquillage, mais ça fabrique pas de l'imaginaire. Donc là, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que les deux ensemble, c'est vraiment, ils sont très émouvants, quoi. Je les aime beaucoup.
Et tout à l'heure, c'est quand même assez marrant. On essaie de pas tomber dans les clichés. Qu'est-ce qu'on va voler dans un polar? On n'arrive plus à voler des lingots, on n'arrive plus à voler les banques. Alors comment on se débrouille dans ces cas-là?
C'est compliqué avec toutes les nouvelles technologies et tout qui devient virtuel, quoi. Entre les NFT, l'argent qui n'existe plus dans les coffres en banque, pour les films noirs, ça devient de plus en plus difficile de faire des films qui racontent en images un objet à voler. Donc là, j'ai trouvé au fur et à mesure j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir ce que les personnages voudraient voler, enfin l'objet convoité, quoi, le magot. Et fallait trouver surtout quelque chose qui était cinégénique. C'était toute la difficulté quand on fait un film. Il peut y avoir des très bonnes idées qui peuvent être des idées. Ça, je reviens à la première question avec Tanguy. Il peut y avoir des idées qui sont des bonnes idées de roman, mais qui sont pas des bonnes idées de cinéma. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai observé en travaillant avec Jean-Claude Carrière. C'était lui, sa virtuosité à avoir toujours quand il écrivait, c'était pas forcément très expressif, mais mis en image, c'était très expressif toujours. Parce que c'est de l'écriture, c'est pas de l'écriture de l'écriture de cinéma, c'est doit être vraiment une écriture qui se porte en image. C'est vrai que dans ses entretiens, par exemple, quand Hitchcock dit que lui, il a fait des films muets et qu'il a raconté ses films sans son, et qu'il a continué à garder cette gymnastique-là, de dire qu'un film, ça doit vraiment se raconter avec des images. Il faut toujours avoir ça en tête, quoi. Il y a maintenant des choses qu'on peut pas faire autrement qu'avec des dialogues, mais le plus les films se racontent, que on se dit, tiens, s'il manquait le son, est-ce que les spectateurs comprendraient? Je me pose souvent la question, je me dis, j'espère vraiment qu'ils arrivent quand même à suivre un peu l'histoire. Plus c'est imagé, plus c'est mieux, c'est quoi.
Alors tout le film est... Tout au long du film, on retrouve des actions, des scènes qui se répondent, qui se font écho. Et sans rien dévoiler, on peut penser à la scène du mariage en prison, à la mer, là où elle rencontre ses amoureux, comment elle va suivre le camion de la pénitentiaire, ou même le braquage, l'idée de braquage qui est sans doute une redite du passé de Michel. Comment est-ce que vous avez construit votre film autour de ces motifs, de cette récurrence ?
Pareil, il fallait qu'il y ait une vérité de cinéma, et c'est vrai qu'il y a un plaisir aussi à avoir des boucles qui se terminent bien et qu'on laisse pas trop les choses dans le vague. Après, je pourrais pas vous dire exactement comment est-ce qu'on a fait. Ce qui était sûr, c'est que j'aimais beaucoup l'idée d'un changement de registre permanent, ou plutôt d'un ton qui serait constamment entre le drame, voire la tragédie, c'est-à-dire des personnages qui sont vraiment... Là, il s'agit d'une femme de 60 ans qui se remarie, qui va espérer peut-être une dernière histoire d'amour, et que si cette dernière histoire d'amour termine, ça serait tragique, ça serait une tragédie sentimentale ou une tragédie affective, mais que tout le temps, en permanence, il y ait quand même la comédie qui vienne soutenir ces espèces de trajectoires comme ça de personnages. Donc j'essayais tout le temps de changer de registre en permanence du film, que le film soit vraiment pas monotone. J'avais dit, voilà, là on est dans une espèce de chronique comique, là c'est la scène de boulevard, là c'est la scène du film d'action, là c'est la scène du film de braquage, mais même j'ai essayé d'inviter Marivaux dans la scène de braquage. Donc j'essayais tout le temps de faire des mélanges. Après on est toujours un peu plein d'orgueil, on se dit toujours, bon, je m'inspire de ça, puis j'essaye de faire des situations qui n'ont jamais encore été faites. C'est toujours l'ambition quand on fait un film. Donc le plus, la chose me disait, tiens, je ne l'ai jamais vu, peut-être ça ne marchera pas, mais en tout cas, essayons d'inventer ça, on ne l'a jamais fait. C'était le pari pendant tout le travail, quoi.
Alors j'aimerais revenir maintenant sur les nombreuses scènes de théâtre en fait qu'il y a dans le film, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant et tout à fait passionnant, puisque là, comme on en parlait tout à l'heure, le film s'ouvre sur un atelier de théâtre, et puis après il y a une scène de répétition du braquage, et puis une dernière scène de mise en pratique dont on dévoilera peut-être pas tout. Mais du coup, il me semble que dans le film, il y a vraiment, vous avez l'art d'entretenir ce trouble entre le vrai et le faux, entre ce que les personnages incarnent, ce qu'ils sont ou ce qu'ils ne sont pas finalement. Et du coup, je me demandais comment, pour vous, s'articuler le mensonge et la sincérité chez vos personnages.
C'est même ça, c'est une leçon de Marivaux que j'ai peut-être un tout petit peu apprise, en tout cas que lui a étudié beaucoup, c'est que bizarrement, le vrai sentiment n'existe pas comme ça. Pas comment dire. C'est toujours en imitant un sentiment que le sentiment vient. Ça, c'est vraiment aussi une thématique de l'acteur, on pourrait dire, qui pourrait être parfois piégé dans des situations qu'il a à jouer et qui se retrouve à, je sais pas, devenir vraiment en colère alors qu'il a fait semblant d'être en colère. Mais je pense que dans nos vies, on n'a pas besoin d'être acteur pour le comprendre. Des fois, on fait semblant, je sais pas, d'être triste pour se sortir d'une situation embarrassante, et puis la tristesse vient. On sait pas pourquoi, parce que c'est comme si l'inconscient voyait qu'il y avait une imitation de la tristesse, et après son être devient triste. Donc il y avait l'idée de jouer avec ça au sein même de situations qui étaient dans lesquelles on n'avait pas l'habitude de voir ça. Après, c'est une alors peut-être au théâtre c'est un peu plus différent, mais j'avais lu une interview de Michel Bouquet quand j'étais plus jeune, qui m'avait vraiment marqué, qui disait, quand vous vous faites mal sur scène, vous devez absolument pas faire peur au spectateur, il doit pas avoir peur pour vous, il doit avoir peur pour le personnage. Donc la manière dont vous vous faites mal, elle doit être d'une certaine manière théâtrale. Et ça, c'est une chose qui me plaisait beaucoup, enfin qui me plaît toujours beaucoup, parce que même quand je vois des acteurs au cinéma et je vois qu'ils se sont fait mal, j'ai des fois du mal à regarder. J'aime pas du tout ça, de voir des acteurs qui se font mal, mais pas seulement physiquement, mais je vois qu'ils se font trop de mal. Donc c'est un rapport entre la c'est la marionnette. C'est-à-dire que je peux pleurer aussi avec une marionnette. Il m'est arrivé de voir un marionnettiste qui manipule tellement bien et qui représente tellement un mouvement qui est complètement de marionnette, mais je sais pas, la représentation de cette pitié-là ou de cette peine-là m'émeut, on sait pas pourquoi. Donc ça, c'est un truc qui me fascine dans la représentation que les acteurs ont à faire des sentiments humains, quoi. C'est-à-dire que ça doit pas être vrai, ça doit pas être la même chose que dans la vie, ça doit emprunter à la vie et trouver une nouvelle forme qui soit une forme de représentation. La forme de représentation la plus agréable pour le spectateur, ou avec laquelle il peut vraiment avoir le plus de plaisir, même si c'est une scène de tristesse. Donc c'était ce jeu-là que j'avais envie de jouer avec les acteurs, qui jouent des personnages qui ne sont pas du tout acteurs, mais qui, pour certains, ont du talent pour ça, d'autres qui n'ont pas de talent et qui vont se retrouver à avoir du talent parce qu'ils convoquent des choses très sincères chez eux. Enfin bon, c'était tout une mise en abîme qui pourrait être un peu, je sais pas, de ce qu'il y a chez Luigi Pirandello ou des trucs comme ça.
Voilà. Alors, par curiosité, pourquoi est-ce que vous mettez on a l'impression que vous mettez en parallèle, d'une certaine manière, le braquage et le jeu de l'acteur. C'est-à-dire qu'il y a ce couple entre Michel, qui est braqueur, enfin qui a fait de la prison en tout cas, et puis Sylvie, qui elle est comédienne. Et on a l'impression qu'à plusieurs reprises, il y a ce parallèle. Alors je ne sais pas si c'est une bonne question, une bonne interprétation ou pas, si je fais fausse route, moi, à mon tour.
Non, ce que j'avais vu, c'est que même, puisque moi je m'inspire de choses un peu, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient été en prison, et il m'avait marqué à quel point, j'avais discuté par exemple avec quelqu'un qui venait de faire 7 ans de prison, et qui continuait à mystifier des grandes figures du banditisme, c'est-à-dire, je voyais d'une certaine manière qu'il continuait à rêver à la vie de certaines figures du banditisme alors qu'il venait d'avoir 7 ans de prison. Et je me suis dit, d'une certaine manière, c'est aussi un truc de l'enfance, de jouer au voleur. Alors quand même, quand on s'est heurté à la réalité de 7 années de prison, qui est pas franchement pas un truc agréable, j'imagine. Et du coup, ça me fascinait de voir comment les braqueurs jouaient aussi encore aux gendarmes, aux voleurs, quoi. Et donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont passés par la prison, trucs comme ça, qui sont devenus acteurs ou qui ont joué, parce que il faut aussi jouer, j'imagine, dans ce milieu-là. Beaucoup de personnages, de rôles, il faut jouer la sincérité, il faut pouvoir mentir, enfin bon.
Tout le début du film, on ne sait pas s'il y aura vraiment braquage tel qu'annoncé. On peut croire qu'on est juste dans les inquiétudes d'Abel. Est-ce qu'il est dans une parano vis-à-vis de sa mère qu'il a envie de protéger? On le suit dans des filatures plus ou moins réussies. Et au moment de la bascule, entre la suspicion et la révélation que quelque chose se trame effectivement, on voit que tout tourne autour de Sylvie. On voit tous les personnages se référer à elle, la possibilité qu'elle puisse être heureuse, l'envie de son bonheur, enfin, tout se parle. C'est vraiment un écho qui est important. Pour vous, que représente ce personnage de Sylvie, qui à ce moment-là est un peu un point central?
On pourrait dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les optimistes et les pessimistes. Moi, le personnage du fils que j'interprète, c'est un pessimiste. Et le personnage de la mère est optimiste. C'est-à-dire qu'elle elle ne va jamais renoncer à une joie qui apparaît comme une joie de son enfance. Enfin, je sais pas, elle a 60 ans, elle a rencontré quelqu'un en prison, elle va se marier avec lui, et il va sortir, tout va bien se passer entre eux. Et c'est cette espèce de force que le fils... qui va inquiéter le fils, mais qui va aussi permettre au fils de vivre une aventure qu'il n'aurait jamais pu vivre ailleurs, grâce à sa mère. Donc la mère, elle est à la fois l'élément inquiétant et en même temps l'élément, moteur, quoi, de tout le monde. Donc elle rayonne sur la vie des deux personnages, celui de Michel et celui d'Abel. Bah, elle est le personnage sans qui il n'y a rien qui se passe, quoi. Tout le monde, Michel est amoureux d'elle et le fils essaye de la protéger de sa joie folle de mère qui a encore 15 ans, quoi.
Et c'est aussi un personnage qui est porté par l'amour, qui tient vraiment à ça, enfin presque de façon folle, effectivement. Elle peut être inquiétante, des personnages lui disent, là tu me fais peur aussi. Et justement, on a eu l'impression, ou on a pu se poser la question, est-ce que c'est pas l'amour qui est le moteur de l'action de tous ces personnages, d'une façon ou d'une autre?
Ben moi c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaisait quand j'écrivais, c'est-à-dire la motivation c'était pas l'enrichissement, c'était pas il voulait pas être malfaisant vis-à-vis de quelqu'un, il se passait un braquage par amour, quoi. C'est-à-dire, ou par amour du fils pour la mère, par amour du mari pour sa femme, du coup ça fait un braquage sentimental, quoi.
Et l'autre personnage féminin fort du film, c'est Clémence, qui est jouée par Noémie Merlan. Avant qu'on enregistre, vous avez parlé de clown aussi pour ce personnage. Alors c'est un personnage exubérant, audacieux, qui a pas du tout peur de se lancer dans des projets insensés, sans se poser de questions, qui est très enthousiaste aussi, optimiste. Comment vous avez imaginé ce personnage?
Ah, il fallait tout de suite une... Même si je me réfère, j'aime pas trop toujours donner des références américaines, mais il fallait que ça soit Catherine Hepburn, quoi. Il fallait qu'elle soit hardie, courageuse, vaillante, fantasque, amusante. Il fallait que ça soit la meilleure amie rêvée. C'est-à-dire celle qui a une pulsion de vie tellement forte que les jours de tristesse ou les jours de mélancolie, elle fait changer l'humeur. Et c'est vrai que dans l'action, elle se retrouve vraiment très très moteur, ce qui fait qu'elle est, elle est courageuse, quoi. C'est Harrison Ford dans Indiana Jones, je sais pas. Elle a un charme fou, j'adore ce personnage, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai tout de suite vu que Noémie, quand elle lisait le scénario, je sentais qu'elle l'aimait. Et ça, il n'y a rien. Il n'y a jamais un meilleur signe quand on voit qu'un acteur tombe un peu amoureux de son propre personnage, parce qu'il va lui donner beaucoup. Et là, je trouve qu'elle lui a donné beaucoup. Et c'est à la fois elle, et en même temps, pas du tout elle. Elle est à la fois comme ça dans la vie, un peu. Elle a emprunté des choses à elle-même. Mais donc, elle a fait ce personnage, je trouve, une vraie création, quoi.
Vous avez parlé de Katharine Hepburn, de Harrison Ford. Alors, je sais pas, mais moi, quand je l'ai vu débarquer avec sa combinaison, j'ai vraiment pensé à Kill Bill, en fait, à un personnage en mission. Et puis à Natasha Kinski avec son pull rose un peu plus tard.
Peut-être Kill Bill déjà plus que Natasha Kinski dans Paris Texas, parce que dans Kill Bill, ici, c'est pour ça que les films de Tarantino sont si géniaux, c'est que là tout d'un coup les personnages de filles dans ces films c'est des Amazones. À côté, il peut rien. On n'a pas peur pour elles. Au contraire, quand tout d'un coup elles se mettent en action, on se sent plus rassuré que ça soit elles que les garçons, parce que les garçons ont l'air un peu bas du front. Et donc il y a quelque chose comme ça que c'était beaucoup avec Naïla qu'on a écrit le personnage. Et elle nous faisait rire, quoi. Même en écrivant, elle nous faisait rire. On se disait, putain, ce personnage, on l'aime bien. C'est vrai que quand on écrit un film, j'aime bien quand je sens que les personnages sont assez définis. Je me dis, tiens, ils existent, ça y est, je peux les imaginer. Pas forcément avec le visage de l'acteur d'ailleurs qui va les interpréter. Au final, maintenant Clément, c'est Noémie Merlant. Mais je me disais avant qu'elle l'interprète, et je la vois, elle est organique, elle existe, quoi.
Alors peut-être une dernière question pour finir. On a trouvé que votre film était vraiment très beau visuellement, et qu'en sortant de la salle, en fait, on gardait le souvenir d'images fortes, notamment celle des silhouettes noires qui se déplacent le long de fonds colorés. Alors je pense notamment à Roche Dizem qui passe devant la cathédrale de Lyon, je sais pas. Et puis dans le centre océanique. Du coup, comment est-ce que vous avez travaillé avec votre directeur de la photographie, Julien Poupart?
Poupart, j'avais travaillé avec lui sur La Croisade. Et sur La Croisade, je lui ai dit, écoute, c'est un film qui se passe maintenant avec des enfants. Tu me fais comme un reportage télévisuel. Je veux pas que ça soit travaillé spécialement. On a une image qui est poétique, qui est là, dans la forêt. Mais même pas besoin que tu me fasses beaucoup de lumière. Ça sera fait avec les lampes torches des enfants. Là, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on arrive à décaler, qu'on soit romanesque. Donc, je lui avais beaucoup parlé, bizarrement, d'un film que j'adore. C'est une référence américaine. C'est un peu chiant, mais il y a un film qui s'appelle Uncut Gems des frères Safdie, que je trouvais très nerveux. Ils avaient travaillé en 35 mm, ils avaient mélangé aussi du numérique. Là, je savais, j'ai dit, écoute, on fait passer un casting à la caméra, on prend la caméra 35 mm et on prend la caméra numérique. Il a utilisé une nouvelle caméra numérique et les essais ont été plus concluants que la caméra numérique, ce qui m'a bien embarrassé, mais ce qui a aidé le directeur de production, parce que ça coûte plus cher la pellicule, mais bon, le numérique a gagné. Et donc il m'a dit, écoute, moi ce que je fais, c'est que je vais avec l'étalonneur qui s'appelle Yov. On va travailler en amont du tournage, on va faire des essais, on va filmer avec toi, tout ça, et on va travailler sur une espèce de texture et qu'ils appellent une lutte, en fait. On a travaillé assez longtemps, on s'est repris à deux, trois fois. Il m'a dit, est-ce que ça t'aimes bien ça? J'ai dit, ah là, j'y crois, là, c'est du roman. Et j'aime bien le romanisme du truc, plus la ville de Lyon, je sais pas, donc c'est beaucoup comme ça. Mais je pense aussi qu'il a travaillé beaucoup avec son chef électricien, et qu'à un moment donné, ils ont été inspirés, quoi, sur le film, ça les a. Cette espèce d'idée qu'on avait de filmer le centre-ville très typique de Lyon, quasiment des images touristiques, enfin la pérégrination touristique dans Lyon, et des zones périurbaines ou quasiment d'autoroutes. On avait ces deux axes-là. Il ne fallait pas que ça soit au milieu, il ne fallait pas que ça soit des centres-villes trop urbains. Il fallait que ça soit vraiment un contraste entre l'autoroute et le centre-ville. Je ne sais pas, tout d'un coup, ça nous a désinhibés. Et c'est vrai que je suis très admiratif de ce qu'il a fait à l'image. Parce que c'est à la fois un peu hors temps, mais tout en étant un film de maintenant, quoi. Il est arrivé aussi, je pense, à citer peut-être les années 80, oui, d'une certaine manière. Et en même temps, à garder un film de maintenant. C'est bien, ça rend le film, ce que je dirais, ouais, romanesque. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui pas tout à fait la réalité, mais un peu avec les attributs de ce qu'on connaît, quoi.
Merci Louis Garrel.
C'était Louis Garrel à propos de son dernier film, L'Innocent. Vous écoutez bien sûr Caméra Subjective, le magazine cinéma de Radio G. Si j'ai évoqué les Césars en début d'émission, l'actu du moment, ce sont aussi les Oscars. La cérémonie s'est déroulée il y a quelques jours et le grand gagnant, avec 7 récompenses, c'est bien sûr Everything, Everywhere, All at Once des Daniels. Je vous confirme qu'on passe un très bon moment devant cette comédie science-fictionnelle déjantée. Et vous avez l'occasion de voir ce film dans les meilleures conditions puisqu'il est repris en salle en ce moment même. N'hésitez pas, allez-y, jetez un œil. On écoute un titre de sa bande originale, composé par le groupe Sonlux, This is a Life.
possibility.
Free from destiny.
I choose you, and you choose me.
Not only what we saw.
Depuis le début de la saison radiophonique, on se réjouit vraiment d'avoir de nouvelles voix au sein de Caméra Subjective. Vous avez ainsi pu découvrir Matt et son regard caustique qui nous fait beaucoup rire. On l'écoute maintenant dans une chronique initialement diffusée le 28 septembre et toujours d'actualité.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeuristes de Caméra Subjective. J'espère que vous êtes tous bien installés, au chaud et au sec. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, il n'y a plus de saison. Pour le coup, là, c'est faux. Hein. Le passage de l'automne se fait bien ressentir. Lors de notre première émission, il y a deux semaines, j'étais trempé de sueur. Et là, pour la seconde, eh bien, je ne vais pas vous cacher que l'achat d'un parapluie se fait ressentir dans mon quotidien. Mais je m'égare, le cinéma dans tout ça, vous allez me dire. Nous vivons une période exceptionnelle. Enfin, je vis une période très exceptionnelle. Il y a Avatar qui est sorti. C'est merveilleux, il y a Avatar qui est sorti. Et c'est vrai que quand je dis ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils me disent « Mais enfin, on l'a tous vu, c'est un film qui est sorti il y a 13 ans, c'est une ressortie. » Mais moi, ce que je dois vous expliquer, c'est que j'ai grandi dans un tout petit village au fin fond de la Mayenne et que le cinéma le plus proche, c'était le cinéma associatif Le Vox à Renazé. C'est un endroit merveilleux. L'équipe est au top. Mais oui, c'est super le Vox. C'est un cinéma merveilleux, l'équipe est au top, les places sont pas chères, les sièges sont existants. Mais je vais pas me mettre à critiquer. C'est vrai que mais juste ces petits cinémas de campagne, c'est vrai qu'il y a un petit défaut, c'est quand même dans leur sortie, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler un léger différé dans la diffusion. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, je suis passé devant le Vox de Renazé avec un ami cinéphile qui voit l'affiche de Jules et Jim et qui, impressionné, me dit « Waouh, mais il y a une rétrospective Truffaut dans ton cinéma de campagne !» Imaginez un petit peu sa tête quand j'ai dû lui expliquer que c'était une avant-première départementale. Vous comprenez bien qu'il y a un souci. Donc, ce que vous appelez communément la ressortie d'Avatar, chez moi, en Mayenne, on appelle ça juste une sortie. Mais bon, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je vis à Angers. J'ai un accès à des sorties mondiales grâce à des cinémas comme Les 400 Coups, Le Gaumont Pâté, Le Cinéville des Ponce. J'annonce d'ailleurs à ces cinémas que mon RIB est disponible sur le site de Radio G pour la publicité que je viens de leur faire. Mais c'est une chance d'avoir un accès comme ça au 7e art. Mais pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je n'ai jamais aussi peu fréquenté les salles obscures qu'en ce moment. Et ça, c'est parce que mes modes de consommation ont changé depuis le confinement. J'ai Netflix, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, à qui d'ailleurs je rappelle que mon RIB est disponible sur le site de Radio G. Mais ce n'est pas le sujet. Il y a beaucoup d'avantages à l'arrivée de ces plateformes. Une porte ouverte à la culture en un clic, même au fin fond de la Mayenne. Pouvoir profiter d'être chez soi et apprécier regarder son film, malgré parfois une qualité discutable, ou des problèmes de connexion, ou les bruits de travaux du voisin d'au-dessus qui devrait déjà être fini depuis 4 mois et à qui on a déjà posé une main courante. Voisin qui, en plus, à chaque fois que je le croise sur mon palier, me dit « Oh bah dis donc, il n'y a plus de saison, vous avez vu, on a ressorti Avatar alors que c'est un film qui est sorti il y a 13 ans, on l'a tous vu. J'en peux plus. J'ai besoin d'air. Et je pense qu'à force d'être chez moi, devant ma télé, je tourne en rond. Et à bien y réfléchir, pour moi, rien n'a jamais remplacé l'expérience de la salle. La pleine conscience de profiter d'un film sur grand écran me manque. J'ai peut-être un canapé à 2000 euros, mais la qualité discutable des sièges du cinéma Vox de Renazé me manque. Et en plus, j'ai pas de canapé à 2000 euros, mais un sofa acheté 50 balles sur le bon coin, mais ce n'est pas le propos. Bref, allons au cinéma, chers auditeurs, il pleut, qu'est-ce que vous voulez bien faire d'autre ? Allons tous ensemble, s'enfermer au chaud, dans le noir, s'oublier au fond d'un doux siège de velours rouge. Allons voir des films, et je m'engage auprès de vous toutes dans ce studio, et auprès de vous qui nous écoutez. Dans le prochain épisode de Caméra Subjective, je parlerai d'un film que je suis allé voir au cinéma, en salle. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.
Pour conclure cette émission, on retrouve Claire, qui a récolté avec son micro des histoires de spectateurs et de spectatrices. On vous laisse avec celle-ci, où le cinéma se mêle à un moment très fort de la vie.
Moi, je m'appelle Chloé. Il y a 3 ans, je me retrouve chez une copine. Je suis à 10 jours du terme. J'étais enceinte, je suis à 10 jours du terme. Et donc voilà, on sait qu'on se retrouve toutes un peu, sûrement la dernière fois, tu vois, avant qu'il y ait une troisième personne avec nous et tout. Donc on se fait un petit brief de « alors t'en es où, qu'est-ce qui se passe ?» et tout ça. « Ok, bah qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ?» Là, tout le monde me disait « dors ». Et j'ai une copine qui m'a dit « non, dors pas, va au cinéma ». J'étais là « ah bon, mais je vais pas si souvent que ça au cinéma, tu vois, j'habite à la campagne et tout ». Elle me dit « bah justement, là on est arrangé et tout, va au cinéma ». Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup là, on sort les téléphones, je regarde c'est quoi la prochaine séance, enfin une séance qu'on peut voir ce soir, tu vois, parce qu'il était déjà, je sais pas, 8h, tu vois. Et puis on se rend compte que une demi-heure plus tard, il y a le dernier Ken Loach qui passe. Et donc on se dit ok, il y a moyen. Et puis là, je me dis ah attends. En fait, une fois qu'on a pris la voiture, on devait prendre un peu la voiture, on était quartier vers la rue Saint-Léonard, tout ça à Angers. Une fois qu'on est dans la voiture, je dis attends, on va crever la dalle. Il faut, vas-y viens, on se gare place un bac et comme ça on prend un truc vite fait. Il y avait un fast-food vegan qui était en bas de la place un bac à ce moment-là, ça s'appelait Copper Branch, ça fermait maintenant. Je dis vas-y, comme ça on se gare place un bac, comme ça on chope un truc vite fait à manger et bon voilà. Donc j'étais avec Alex il me dit c'est chaud timing, peut-être on va rater les bandes annonces, ce qui pour moi est quand même la moitié de la séance de perdu, c'est de rater les bandes annonces. Mais je dis c'est peut-être la dernière séance que je vais voir avant très longtemps, donc vas-y c'est pas grave, on le fait. On s'arrête à Copper Branch, on prend à manger et la meuf met 20 minutes à me préparer mon truc falafel, je sais pas quoi. Donc là je commence à vraiment m'énerver et tout. Bref, on court, je suis à une semaine de mon terme, je cours jusqu'au 400 coups de la place Saint-Bac, tu vois. Et là arrive ce qui doit arriver. Et donc le film commence et je suis trop contente de voir le dernier Ken Loach. Franchement, il n'y a jamais eu vraiment de déception, je ne les ai pas tous vus, mais j'ai l'impression de retrouver un vieux pote, tu vois, un peu de la génération de mes parents. J'ai l'impression de retrouver un des copains bien militants de mes parents, où je trouve qu'il n'y a pas tant à l'ancienne que ça. Je trouve qu'il y a quand même plein de trucs. Je sais pas, je me rappelle La Part des Anges. Je me souviens de quelques films comme ça où je me dis, ah quand même, hein, il a vu des trucs, quoi, juste avant que ça devienne une évidence pour plein de gens, et il avait quand même capté 2-3 trucs, quoi. Donc je suis trop contente d'aller voir le Ken Loach. Le film commence et tout ça. On sent assez vite que ça va pas être le truc super fun, mais bon, c'est rarement le cas, hein, chez Ken Loach. Enfin. Et à un moment, je me dis, putain, quand même, c'est chaud, j'ai quand même vraiment des contractions là, quand même. Et je dirais à partir de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure du film, je suis contente, je suis émue et tout ça. J'ai couru, je suis encore un peu essoufflée. Je me dis que ça fait longtemps que je suis essoufflée. Ça fait bien longtemps que je suis assise et pourtant je suis encore essoufflée. Et je me mets à compter les contractions, à compter les temps entre les contractions. Et là, je me rends compte que je vais accoucher. Et je me dis, putain, c'est trop bien, je vais accoucher devant Ken Loach. Peut-être que je pourrais lui demander d'être le parrain de ma fille. Non. Et donc du coup, je me souviens très bien du début du film, et je peux pas du tout. Faudrait que je le revoie en fait, parce que je sais pas du tout comment ce film finit. En fait, j'avais le nez rivé sur le minuteur de mon téléphone à compter le temps entre mes contractions, et en sortant, on est parti à la maternité. Et je voyais Alex qui me regardait, qui me disait ça va, tu veux qu'on y aille ou que... Lui, il a pas tout de suite compris pourquoi je regardais tout le temps mon téléphone. Et au bout d'un moment, je me penche doucement vers lui. Je vois qu'il est un peu ému par le film. Je comprends pas du tout pourquoi il est ému, parce que moi, ça fait un petit moment que je suis décrochée. Je lui dis, commence à être un peu chaud là quand même. Mais je me dis, non, on va rester jusqu'à la fin. C'est le dernier film qu'on voit. J'ai eu peur à un moment donné. Je sais que je me suis dit, ah, j'aimerais bien que ça soit pas une fin hyper tragique. Ça me mettrait pas dans un bon mood pour ce qui m'attend là, cette nuit. Et bah, ça, même ça, je peux même pas te dire si ça finit bien ou pas. Je crois pas. Je crois que ça finit pas bien du tout. Je crois même que c'est assez sombre et tout ça.
Yeah, going from shit job to shit job, working 14 hours a day. Having to put up with everyone else's shit. Going from one shit job to another shit job. You're just going to end up a skivvy.
A skivvy? It's your choice to be a skivvy, isn't it? A skivvy doesn't come to you. You go to it. Right?
I'm doing my best, Seb.
Maybe your best isn't good enough, is it?
No. It's not, is it?
No.
I want it better for you. I want it better for Liza. Do you know what? Fuck this. I'm going to bed.
Go on then.
Yeah, fuck off.
Fuck you.
Il y a un truc dans le film qui parle de la filiation, tu vois, il y a... Tu vois, sur le mec... Alors putain, je vais dire plein de conneries, parce que je te dis, j'ai un souvenir très vaporeux de ce film. Mais il y a un rapport avec son fils, machin, donc il y a un truc où tu sens qu'à un moment, ça marche. Tu sais, en fait, tu vois bien que ces gens, bah, Ken Loach, quoi, il défend tous ses personnages, quoi, tu sais, comme Tchekhov au théâtre, ou... Il les défend tous, quoi. Il n'y a pas un gros con de merde qui a, où il n'y a rien à en tirer, quoi. Ils ont tous quelque chose que tu peux, qui peut te donner envie d'aller soit le sauver, soit de l'aimer, soit de défendre. Ou... Mais c'est écrit comme ça, je crois. Et du coup, ce, en tout cas dans mon souvenir, ce personnage d'ado, un peu plus qu'ado peut-être, le fils là, il, c'est une tête de con, mais hyper attachant et tout ça. Et en fait, je me suis dit, putain, je vais, moi, être confrontée un jour, j'aurai un ado. Je crois que c'était pas si clair que ça, en fait. Parce que, forcément, j'en ai vu d'autres, hein, des films pendant que j'étais... Enfin, non, peut-être pas. Peut-être que c'est le seul film que j'ai vu quand j'étais enceinte. Bon, je vais t'en voir peut-être un ou deux autres. En tout cas, j'avais pas trop réfléchi. Quand t'es enceinte, tu penses que tu vas avoir un enfant. Mais en fait, tu vas avoir un enfant, un ado, après, ce sera un adulte et tout. Franchement, si tout se passe bien, normalement, à la fin, ton gosse, ce sera pas du tout un gosse, quoi. Et du coup, voilà. Et je me rappelle d'être m'être dit à un moment, putain, ça se trouve, un jour, on va se détester et tout. Ça, je me l'étais déjà dit avant. Mais là, le fait de le voir et tout ça, tu sais, le truc, forcément, il y a une emphase. Pas une emphase, mais une projection, une empathie, tu vois, hyper forte.
Must have your own destiny, Ricky. You up for that?
Yeah.
Caméra subjective, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On espère que ce voyage dans nos archives vous aura plu et on vous donne rendez-vous pour une émission fraîche, originale et live dans 15 jours. Bien sûr, vous retrouverez les détails et des infos complémentaires sur tous nos sujets à la page de l'émission sur le site de Radio G, ainsi que les podcasts de toutes nos émissions précédentes. Avant de vous quitter, je prends quelques secondes pour vous dire que le film The Host, réalisé par Bong Joon-ho, à qui l'on doit Parasite ou encore Snowpiercer, ressort en salle dans une restauration 4K. J'ai un très bon souvenir de ce film où on suit une famille face à un monstre, un terrible monstre sorti du fleuve. C'est à la fois inclassable, on peut y voir de l'horreur, de l'action, du drame, il y a de l'humour et aussi c'est excellent. C'est une occasion de revoir ce film dans de très bonnes conditions, je vous invite à y aller. Moi j'y serai et qui sait, on en parlera peut-être dans la prochaine émission. Bonne soirée et surtout, bon film!
www.radio-g.fr